religion du monde. Geneviève Delru.
Sans la presse, elle n'aurait jamais parlé pour l'immense majorité d'entre elles. Bon, la parole libérée, on est une sorte de le montre à elle toute seule, cette association. Mais c'est vrai partout, ça, on l'a entendu au symposium à Rome, de la part des associations de victimes. C'est-à-dire que sans la presse, toutes ces personnes, c'est dramatique, mais c'est comme ça, n'auraient pas eu accès à la parole. Parce que malheureusement, l'Église fonctionne de ce point de vue-là comme toutes les autres institutions.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec la crise des abus sexuels, l'Église est appelée à vivre une grande mue. À commencer par la fin de la culture du déni et du silence qui aurait perduré sans le travail de la presse, ce que vient de souligner sœur Véronique Margron, dont le livre « Un moment de vérité » sort à la fin du mois chez Albin Michel et que nous entendrons dans cette émission, consacrée au caractère inédit, sans précédent, de cette tempête que traverse l'Église qui, au-delà des procédures juridiques qu'elle a mises en place, doit rechercher les causes de ces violences sexuelles perpétrées par des clercs et qui, par effet de loupe, jettent le discrédit sur l'ensemble du corps ecclésial. Avec une cascade de nouvelles révélations, notamment au Chili et dans le diocèse de Pennsylvanie aux États-Unis, l'année 2018 et ses derniers rebondissements sont rudes pour le pape, le clergé et les fidèles catholiques. Pour s'en tenir aux faits les plus récents, le cardinal McCarrick, archevêque émérite de Washington, réduit à l'état laïque pour abus sexuels sur mineurs et aussi pour homosexualité active auprès de jeunes séminaristes. La condamnation en début de semaine à 6 ans de prison du cardinal australien George Pell, ex numéro 3 du Vatican, pour agression sexuelle sur mineurs dans les années 90, commise à la cathédrale de Melbourne, dont il était le respecté archevêque. Et puis la condamnation la semaine dernière, du cardinal Barbarin à 6 mois avec sursis pour non-dénonciation à la justice du père Préna, cet aumônier de scout accusé d'avoir abusé de 70 garçons dans les années 70-80 avant l'arrivée du cardinal dans le diocèse. Mais l'archevêque de Lyon, au fait des agissements de ce prêtre, s'était limité à les signaler au Vatican. Et cette affaire n'aurait pas connu cette issue judiciaire sans la plainte et la détermination de la parole libérée. L'association créée par un groupe d'anciens victime du père Préna, dont l'histoire est retracée dans le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sorti au moment où s'ouvrait à Rome le sommet sur la protection des mineurs dans l'Église, le pape voulant provoquer une prise de conscience collective sur cette question dont dépend l'avenir de l'institution. Premier invité de cette émission, l'archevêque de Strasbourg, ancien évêque aux armées, Monseigneur Luc Ravel, très en pointe sur cette question des abus sexuels et qui publie aux éditions Artege comme un cœur qui écoute. Deux points, la parole vraie d'un évêque sur les abus sexuels. Retour déjà avec Monseigneur Luc Ravel sur la condamnation du cardinal Barbarin et les conclusions qu'il en tire.
Voilà, on était préparés, oui, à gérer un presbytérium, oui, à annoncer la parole de Dieu, oui, à préparer le catéchisme, etc. Puis on s'aperçoit qu'on doit être aujourd'hui extrêmement vigilant et absolument en première ligne sur cette question-là.
Est-ce que vous estimez que cette condamnation est injuste parce que ces faits ne concernent pas la période où il était archevêque, hein, ou bien est-ce que d'une certaine façon il fallait envoyer un message? Il a mal géré. C'est un message pour les évêques.
Oui, très certainement. C'est un message pour tous les responsables religieux, j'ose dire. Bon, alors pour l'instant, ce sont les évêques. On peut penser bien sûr à des supérieurs de congrégation, hein, féminines ou masculines, hein, et puis peut-être un jour à d'autres communautés religieuses aussi. Donc c'est un message lancé pour tout le monde, clairement. Alors, est-ce que c'est injuste ou pas? Moi, je crois qu'il faut que nous nous en tenions de façon très précise à la justice civile. Je n'en dirai pas autant de tous les pays du monde, mais en France, et comme dans beaucoup de pays d'Occident, on a une justice indépendante, une justice humaine, comme l'est aussi la justice de l'Église. On fait ce qu'on peut, on essaye d'agir au plus près des faits et de sa conscience et du droit, et il faut s'en tenir là.
Vous trouvez effectivement que cette commission, hein, qui a été nommée, donc commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé. Finalement, cette commission est absolument indispensable, faire la lumière même sur des affaires qui remontent à 60 ans.
Mais je pense qu'il est important d'avoir aussi une profondeur historique, une profondeur géographique, une extension géographique, une profondeur historique. Ça nous permettra de voir vraiment s'il s'agit simplement de déviance, comme on a voulu le dire au début, de tel ou tel individu, ou de tel climat, d'une morale occidentale, dépravée, décadente, ou d'autres explications que j'ai entendues aussi, que après les chocs des deux guerres mondiales, on savait plus où aller. Je suis pas très convaincu de tout cela. l'extension et la profondeur historique me montrent que c'est un mal que j'ai appelé épidémique. Hein. Ça ne touche pas tout le monde, mais ça touche de partout. Et donc, il va falloir travailler les racines, hein, bien au-delà de telle ou telle affaire, de telle ou telle condamnation.
Les racines, Mgr Luc Ravel, précisément, parlons-en. Effectivement, là, on voit un arsenal juridique qui est mis en place pour mettre fin à cette culture de l'impunité. Et on peut supposer, effectivement, que des prêtres qui seraient passés à l'acte ne le feront pas aujourd'hui. En même temps, on a le sentiment quand même que les causes ne sont pas mises en exergue. Et là, on pense, alors je sais que vous n'êtes pas effectivement dans cette ligne-là, mais on pense à la question du célibat. Alors bien sûr, on sait très bien que 85% des abus sexuels se passent dans les familles. Il n'empêche quand même que la question du célibat et de la chasteté aussi se pose.
Oui, mais alors indépendamment de cette question des abus sexuels, c'est ce que je veux absolument dire, parce que d'abord, ça voudrait dire que le mariage, excusez-moi de le dire ainsi, c'est finalement qu'un remède à la perversité. C'est quand même, je pense, une façon très très minimaliste et un peu courte de voir le mariage. Je pense quand même c'est une aventure d'amour. Voilà, qu'il y ait des prêtres mariés dans l'Église catholique, nous en sommes convaincus, dans toutes nos églises orientales, entre autres, hein, chez les maronites, etc. Donc si vous me dites, la question de l'ordination de prêtres mariés se pose, oui, c'est une question que qu'on est prêt à aborder, mais pas dans ce cadre-là. Je crois que nous avons affaire ici, là, à des abus. La racine, c'est certainement c'est cet abus de pouvoir spirituel qui vient utiliser ou qui vient se greffer sur une perversité psychologique, parce que quand même s'attaquer à des enfants de 8 ans, 10 ans, à des jeunes filles de 13, 14 ans, c'est quand même de la perversité. Mais voilà, on est prêtre, on a un pouvoir spirituel réel, on touche les âmes, on est là pour conduire, pour élever, vous voyez, on touche à une intimité profonde, et au lieu de servir à la rencontre avec Dieu et puis hop, tout de suite disparaître et s'effacer, hop, on se met entre Dieu et la personne, et on rapporte tout à soi. C'est une perversion amplifiée, doublée.
Vous êtes inquiet pour des continents comme l'Afrique, hein, où on parle peu. Bon, bien sûr, il y a eu à Rome donc cette rencontre des évêques du monde entier. Le pape voulait cette prise de conscience, hein, manifestement, de certains qui ne veulent pas voir, qui disent, voilà, c'est pour l'Occident dépravé, etc., etc. Est-ce que vous êtes inquiet de révélations à venir pour le continent africain, par exemple ?
Oui, bien entendu, ce qui se passe en Afrique est au moins semblable, si pas pire, à ce qui se passe en Occident. Simplement, qu'est-ce qui se passe en Occident ? Nous avons séparation des pouvoirs. On a séparation du pouvoir religieux, on a séparation du pouvoir judiciaire, on a séparation du pouvoir politique, on a aussi séparation du pouvoir médiatique, ce qui fait que chacun aujourd'hui peut servir de façon indépendante. Par exemple, les médias nous ont fait beaucoup de bien, quelle que soit leur intention. Ils ont scanné. Voilà, alors on peut toujours maudire le thermomètre ou le scanner, mais si ça révèle une tumeur, ça révèle une tumeur. Donc je dis merci aux médias.
Oui, pour vous, sans les médias, effectivement, l'Église serait restée dans ce silence, dans cette culture du silence, c'est clair.
Et on serait confiné dans notre omerta, persuadé qu'il faut protéger l'Église en protégeant l'institution. Mais je distingue bien, il faut l'institution pour l'Église, et c'est ma conscience de catholique et ma foi de catholique qui me fait dire qu'il faut une institution, avec le pape, les évêques, etc., les prêtres. Mais attention à l'autodéfense qui, d'ailleurs, à terme, conduit au repli sur soi.
C'est pour ça que dès le début, manifestement, vous avez joué la carte de la transparence, de la communication avec la presse, sur ce que vous faites notamment dans votre diocèse d'ailleurs.
J'estime que la presse nous a été extrêmement utile. Je n'aurais pas personnellement pris conscience de l'importance de ce problème sans la presse. C'est parce que chacun le voit avec son angle, et puis il y a évidemment énormément d'angles morts. Je pense que les révélations ne sont pas terminées, que la presse va encore travailler. Je pense donc qu'on verra davantage le côté épidémique. Vraiment, hein, c'est-à-dire tous les continents sont atteints. Voilà, alors j'ai pas dit que tout le monde était atteint et que tous les presses, attention, sont des perverses, mais je veux dire, on en trouve de partout, donc ça c'est quand même pas très bon signe. Ça veut bien dire que c'est quelque chose qui tient, ce que j'ai dit tout à l'heure, à des racines, à notre façon de fonctionner, quoi, pas seulement à telle ou telle tribu, peuple ou culture.
Est-ce que précisément, parce qu'on a bien un problème avec les chiffres quand même, est-ce que la proportion de prédateurs ou de prêtres pédophiles est plus importante dans le clergé que dans la société ? On n'a pas de chiffres véritablement.
On n'a pas de chiffres, c'est ça qui est quand même extrêmement compliqué. Mmh. Nous, ce qu'on peut rapporter, c'est les chiffres connus que nous avons de prêtres prédateurs par rapport au nombre de prêtres. Mmh. Bon, quand on parle de 7% en Australie, quand on parle de 4,7% en Allemagne, aux États-Unis, bon, les chiffres tomberont, et pas simplement des vrais chiffres, hein, peu à peu, État après État. Bon, on risque d'être à peu près dans cette zone-là,
4,5%.
En France, pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres globaux, parce que je suis persuadé qu'on aura beaucoup plus de mal à enquêter. Et donc, la commission indépendante de Monsieur présidée par Monsieur Jean-Marc Sauvé va se heurter à quelque chose, c'est que nous n'avons pas la culture des archives en France, soit parce que c'est pas notre truc, soit parce qu'on a fait disparaître des éléments. En tout cas, moi, je sais qu'à chaque fois que je reviens à un des dossiers sur le prêtre en question qui a été désigné dans mon diocèse, je ne trouve pas d'éléments, rien. Donc ça veut dire qu'il nous sera extrêmement difficile d'avoir une vision historique et donc de pouvoir faire des statistiques réelles et pas simplement un comptage des cas qui nous sont révélés.
Est-ce que c'est compliqué quand on est évêque, que l'on est au courant, qu'il y a une rumeur autour d'un prêtre que l'on connaît bien? Est-ce que ça n'est pas compliqué? Est-ce que ça n'est pas trop difficile, finalement, de lui demander de faire son job qu'il doit faire, puisque la justice le lui demande? Est-ce que ça ne serait pas plus simple qu'il y ait, effectivement, une sorte de corps intermédiaire? C'est ce que proposait, je crois, d'ailleurs, Monseigneur Pontier. Voilà, que ça soit, finalement, externalisé à une sorte de commission indépendante et qui ne mette pas, finalement, l'évêque en porte-à-faux.
Alors que l'évêque soit en porte-à-faux, dans mon ouvrage, hein, justement, comme un cœur qui écoute, j'ai simplement deux pages hein, où j'essaye d'exprimer un petit peu la douleur, la difficulté de l'évêque que je suis, qui bien sûr n'a rien à voir avec la douleur handicapante hein, de ceux qui ont été fracturés par un abus sexuel, hein, donc des victimes. Hein. Et je pense aussi quand même à la grande misère de ceux qui se retrouvent aujourd'hui des années en prison. Bon voilà, ils l'ont peut-être mérité, mais c'est lourd quand même. Hein. Mais quand même, je dois avouer. Alors ceci dit, que l'on fasse par exemple une commission, comme la commission Sauvé, qui n'a pas pour but d'être judiciaire, elle, hein, qui a pour but de faire un travail, je dirais, d'appréciation historique et sociologique et psychologique, ou bien que l'on fasse des tribunaux, ça a été suggéré, ça, parce qu'actuellement, en définitive, on doit tout faire remonter à Rome. Mais à Rome, ils sont débordés, je le sais, je suis allé les rencontrer. Voilà. Donc celui qui est responsable de ce suivi des affaires m'a dit, on est les pompiers pour l'instant, on a la tête sous l'eau. Et c'est dommage, parce qu'avec les cas qu'ils ont, ils pourraient, eux, faire des statistiques intéressantes. Nous dire, par exemple, comment ces prêtres sont passés à l'acte, à quel âge, quelles sont les circonstances favorables, ça nous aiderait beaucoup. Quels sont leurs profils psychologiques? Voilà, autant d'éléments qui nous aideraient beaucoup. Mais, en définitive, de toute façon, l'évêque, c'est l'évêque, il sera, sur ce thème, toujours en première ligne.
Oui, mais poursuivons avec la proposition de Monseigneur Pontier. De créer une instance pénale intermédiaire au niveau de l'Église qui aurait donc pour effet de délocaliser les procès canoniques. Alors, est-ce que cela vous paraît une bonne piste? Et d'ailleurs, comment ça se passe actuellement au niveau de la justice canonique?
Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, je dirais, du côté de l'Église? Il existe Rome. Alors, Rome, c'est la congrégation de la doctrine de la foi, qui a effectivement un tribunal et qui se réserve, voilà, ces cas très précis d'abus sexuels commis par des clercs, hein, par des prêtres. Alors, et par exemple, seuls eux sont habilités à dire on les renvoie de l'état clérical, c'est-à-dire c'est plus le cardinal MacCarrick, c'est monsieur MacCarrick, voilà. Et puis, il existe l'évêque qui, parfois, dans son diocèse, pas tous les diocèses, a ce qu'on appelle un tribunal ecclésiastique, qu'on appelle dans notre jargon une officialité. Voilà. Alors, il avait été en proposition hein, de la France, des évêques français, pourquoi on ne pourrait pas créer des systèmes de tribunaux régionaux ou interdiocésains, voilà, un petit peu intermédiaires entre Rome et le diocèse, pour traiter ces cas qui, effectivement, nous embarrassent un peu, parce qu'il y a une grande proximité. Voilà. Alors encore, à Strasbourg, j'ai plusieurs centaines de prêtres, mais dans des diocèses où il y a 30, 40, 50 prêtres actifs, vous voyez, on se connaît bien, on est très proches, donc ça peut interférer avec le recul qu'il faut pour une justice équitable. Et puis, c'est aussi des choses très techniques, très complexes. Voilà. Alors pourquoi pas une juridiction intermédiaire, si vous voulez. Mais de toute façon, ça j'en demeure persuadé, les victimes vont voir l'évêque, celles qui se révèlent aujourd'hui, essentiellement, veulent voir l'évêque. Et je le comprends. Donc, si dans l'affaire Barbarin, entre guillemets, il y a eu erreur, c'est qu'effectivement, le cardinal n'a pas tout de suite réagi lui-même. lui-même à cette question en recevant les victimes et puis tout de suite en signalant la justice.
Combien de personnes avez-vous reçues dans votre diocèse, Monseigneur Luc Ravel?
Je dirais qu'aujourd'hui, mars 2019, 25 personnes à peu près au moins, et puis ça augmente presque chaque semaine, victimes ou familles de victimes sont venues me voir et me rencontrer.
Vous avez le sentiment que ces affaires envahissent votre ministère?
Allez, globalement, ça me prend un bon quart de temps.
Selon vous, comment est-ce que l'on peut dire que l'Église est à l'aube d'une sorte, dont elle est dans la tempête évidemment, on le sait, est-ce que selon vous, elle est à l'aube effectivement d'une forme de révolution? Que là, c'est non seulement c'est pas une phase, c'est beaucoup plus grave que ça. Est-ce que selon vous, effectivement, c'est une des crises majeures de son histoire contemporaine?
Très certainement. Alors, certains prêtres d'une certaine génération diront oui, mais l'après-concile Vatican II, c'est-à-dire à partir de 1965, dans les années 70 en France, ça a été compliqué, etc. C'est vrai, par exemple, on peut penser au départ de beaucoup de prêtres, etc. Mais quand même, je pense que sur le dernier siècle, en France et dans d'autres pays, c'est une secousse inouïe. Parce que là, on touche pas simplement des questions de personnes, on touche les racines, on touche vraiment, voilà. Est-ce que l'Église catholique, avec tout ce que le Seigneur lui a donné, peut continuer de fonctionner comme cela? On a parlé lors de la rencontre à Rome des présidents des conférences épiscopales sur le thème des abus sexuels, qui a eu lieu en février, là, 2019. On a parlé de révolution copernicienne. C'est-à-dire, c'est plus le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et un cardinal commentait en disant, ben voilà, il faut que ce soit maintenant, c'est plus les victimes qui tournent autour des prêtres, entre guillemets, c'est vraiment les victimes qui deviennent au centre et les prêtres et l'institution qui tournent autour. Et je crois qu'il faut qu'on aille jusqu'ici. C'est-à-dire vraiment une révolution. Vous avez employé un mot très juste, alors peut-être de façon plus positive, un renouveau, mais qui n'est pas simplement une réforme.
Monseigneur Luc Ravel qui publie aux éditions Artege comme un cœur qui écoute la parole vraie d'un prêtre sur les abus sexuels.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Autre livre qui ne mâche pas ses mots sur le sujet, celui de sœur Véronique Margron, Un moment de vérité, c'est le titre, écrit avec le journaliste Jérôme Cordelier qui sortira chez Albin Michel à la fin du mois. Véronique Margron est une religieuse dominicaine. Théologienne, spécialiste des questions d'éthique, elle est l'auteur de nombreux ouvrages. Mais cette intellectuelle est aussi une femme d'action, une intellectuelle avec un casque de chantier, pour reprendre l'image de Jérôme Cordelier. Véronique Margron est en effet la provinciale de l'Ordre des Dominicaines pour la France, et depuis 2 ans, elle préside la COREF, la Conférence des religieux et des religieuses de France, une première femme donc à occuper ce poste. En juin dernier, celle qui fut dans le passé éducatrice auprès de jeunes délinquants et connaît bien la question de la maltraitance, a organisé une journée sur les abus sexuels et la pédophilie. Mais à cette actualité lourde dans l'Église, est venue s'inviter, notamment grâce aux révélations du tout récent documentaire diffusé sur la chaîne Arte, la question des violences sexuelles sur religieuses en France, avec un long focus sur le père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la communauté de Saint-Jean, et son frère Thomas, cofondateur de la communauté de l'Arche. Et bien que traité de façon plus courte, car le sujet reste tabou, les actes commis par des prêtres dans des communautés religieuses en Afrique. Alors, en tant que responsable au niveau français des communautés de religieux et de religieuses, est-ce qu'elle a été surprise?
Oui et non. Tel ou tel fait n'est pas une révélation, en particulier concernant les frères Philippe. Mais par contre, ce qu'on perçoit dans le documentaire de complicité, de déni, d'aveuglement, et quand même à une ampleur qui semble importante, il ne faut pas généraliser heureusement, mais quand même avec des ramifications qui ressemblent quand même à de la prostitution forcée, ça vraiment, je n'en avais pas du tout idée à cette mesure-là.
Prostitution forcée, c'est-à-dire, c'est quand à un moment donné du documentaire, une religieuse dit très clairement que sa supérieure, donc nous sommes en Afrique, le pays je crois n'est pas véritablement nommé, mais que sa supérieure dit très clairement, faites-vous faire, parce que sinon, bon, il y a moins d'argent, moins de facilité, etc. pour la communauté.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un chantage sexuel qui s'opère, quoi, clairement, un marchandage sexuel, moi, avec... des prêtres du clergé local ou des évêques ou des religieux, mais en tout cas on sent bien ça. Donc mesurer cette horreur là, là je trouve que c'est quasiment indicible, c'est-à-dire que je trouve que vu d'ici, qu'avons la chance de pas être dans ces contextes évidemment, mais on a à peine les mots pour penser ça tellement on est horrifié.
Oui, parce que ces religieuses effectivement, si elles sortent de leur communauté, elles se retrouvent dans un état de pauvreté.
Ah ben plus que ça, dans un état d'indigence, c'est-à-dire elles n'ont rien. Déjà, on voit cela, y compris dans nos pays, où parfois, quand des religieuses sortent, elles n'ont le moins qu'on puisse dire, c'est pas grand-chose, et parfois même pas du tout le minimum. Bon, mais alors dans ces pays-là, bien plus, et alors pour celles en plus qui sortent en étant enceintes ou en ayant avorté, bon, là, c'est l'infamie des infamies. Donc on peut imaginer la condition d'exclusion dans lesquelles sont ces femmes.
Et vous aviez-vous eu vent quand même de ces histoires ou c'est une découverte pour vous ?
À dire, j'avais eu vent d'histoires, mais pas de cette façon, c'est-à-dire, comment vous dire ça ? D'histoires nominatives, c'est-à-dire que, voilà, il y a tel et tel homme prédateur, qu'il y a tel ou tel lieu où on sait que des sœurs ont été abusées, qu'une autre a été obligée d'avorter, mais pas avec cette sorte d'organisation à moitié ou totalement diabolique qu'on peut voir, qu'on peut pressentir en tout cas dans le documentaire.
Est-ce que vous pensez qu'en France aujourd'hui, des religieuses françaises peuvent être encore victimes d'abus de pouvoir et d'abus sexuels ?
En tout cas, on peut vraiment le craindre parce que je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas du tout. Et donc, à la fois, on peut penser qu'on peut espérer, mais vraiment, vraiment en fermant très fort les yeux, qu'il y en ait le moins possible, mais on peut malheureusement penser qu'il y en a. Et ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai reçu des femmes qui ont été victimes en étant religieuses dans les 20-30 dernières années. Donc ça ne remonte pas non plus aux années 1930 non plus. Hein. C'est quand même la fin des années 1990, début des années 2000. Donc c'est hier quand même tout cela, hein, qui en sont évidemment torturées à l'intérieur. Et ces femmes ont besoin de secours, ont besoin d'aide, qu'elles soient restées ou qu'elles aient quitté la vie religieuse.
Alors, vous êtes présidente de la COREF, donc la COREF, c'est pour la France. Hein. Est-ce que vous vous sentez quand même une responsabilité, en quelque sorte, pour ces religieuses à l'étranger, notamment ces religieuses africaines ?
On ne peut pas ne pas se sentir de responsabilité, parce que c'est un enjeu moral, c'est un enjeu ecclésial, c'est un enjeu humain, et du sein de la vie religieuse, c'est un enjeu spirituel. Alors après, je n'ai pas de responsabilité légale au sens où j'ai de pouvoir nulle part, ni en France, ni ailleurs, mais encore moins ailleurs. Mais le souci de dire comment faire, quoi aller chercher pour mobiliser les sœurs, les hommes, les religieux, les prêtres, les évêques sur le terrain là-bas en Afrique, sans doute là-bas dans bien d'autres pays du Sud, peut-être par ici en Europe, dans des endroits qu'on ignore, pour que là, les personnes qui peuvent agir soit mobilisé et passe à l'action. Donc il y a un véritable enjeu de responsabilité commune. On ne peut pas simplement se dire, moi je suis sur mon petit territoire et le reste c'est bien malheureux, mais tant pis.
Vous êtes en contact avec des, bien sûr, j'imagine, avec, je le suppose, avec des supérieurs de congrégations en Afrique ?
Oui, c'est-à-dire, je suis surtout en contact avec ce qu'on appelle des supérieurs généraux, donc si vous voulez, des supérieurs internationaux qui ont beaucoup de sœurs en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. Donc c'est plutôt par ce biais-là, plus qu'avec des sœurs responsables localement, c'est plutôt des responsables internationaux qui ont des sœurs là-bas.
Et là, vous allez en parler ensemble ?
Oui, nous avons déjà commencé hein, depuis facilement une année à en parler, parce que beaucoup de ces sœurs, beaucoup de ces responsables sont vraiment inquiètes, bon, pour leurs propres sœurs, mais sont aussi inquiètes pour d'autres qui sont souvent dans des situations moins protégées, telles qu'on le voit dans le documentaire, c'est-à-dire des congrégations plus locales, donc qui n'ont pas la force des congrégations internationales, où nous, les congrégations internationales, si une région est en difficulté financière, c'est le reste de la congrégation qui est solidaire. Évidemment, c'est la moindre des choses. Alors que des congrégations locales, par définition, ça va être le clergé ou l'église locale. Donc l'emprise peut être beaucoup plus forte parce que le lien de dépendance est beaucoup plus fort.
Sœur Véronique Margron, à la fin du mois de mars, le 28 mars, sortira donc aux éditions Alma Michel « Un moment de vérité », donc un livre écrit avec le journaliste du Point, Jérôme Cordelier. Vous faites partie des quelques religieuses et religieux très en pointe sur cette question des abus sexuels dans l'Église. Pourquoi ?
Je ne sais pas si je fais partie des gens en pointe, mais en tout cas des gens, avec beaucoup d'autres, heureusement aujourd'hui, hein, convaincus, oui, convaincus et j'espère bien déterminés. Pour deux raisons au moins. D'abord parce que je suis théologienne, spécialisée questions d'éthique, et donc j'entends des gens ayant été victimes, alors pas forcément victimes dans l'Église, mais victimes d'abus, victimes d'emprise, victimes d'abus sexuels, victimes d'inceste, depuis très longtemps. Donc ça veut dire que j'ai de très nombreux visages, dans l'Église et hors l'Église, si on peut dire comme ça, qui m'habitent. Et la situation actuelle, avec toutes ces révélations plus tragiques et plus scandaleuses les unes que les autres dans notre Église depuis quelque temps, mettent une sorte de colère terrible. Et je me dis, il faut mettre la colère au service de l'action, il faut mettre la colère au service de la vérité, au service de la justice, parce que sinon, bon, très bien, on peut tous être en colère, et alors ça ne sert à rien. C'est comment elle va mobiliser de l'action.
Et là, vous soulignez le rôle de la presse. Pour vous aussi, comme Mgr Ravel, d'ailleurs, qui le souligne bien, la presse, les médias ont été pour vous essentiels dans ce chemin.
Ah, mais c'est sûr. C'est-à-dire que quand vous écoutez des personnes victimes, sans la presse, elles n'auraient jamais parlé pour l'immense majorité d'entre elles. Bon, la parole libérée, on est une sorte de le montre à elle toute seule, cette association. Mais c'est vrai partout, ça. On l'a entendu au symposium à Rome, de la part des associations de victimes. C'est-à-dire que sans la presse, toutes ces personnes, c'est dramatique, mais c'est comme ça, n'auraient pas eu accès à la parole. Parce que, malheureusement, l'Église fonctionne de ce point de vue-là comme toutes les autres institutions.
Alors, votre livre, donc, Un moment de vérité, publié chez Albin Michel, vous dites, voilà, j'écris pour sortir du désastre.
Oui, enfin, c'est très prétentieux de prétendre qu'en écrivant, on va sortir du désastre. Bien sûr que non. Mais l'idée, c'était plutôt de dire, bon, essayons, autant qu'il est possible dans un tel désastre, pour le coup, de s'asseoir deux minutes et d'essayer de penser. Parce que cette crise dans l'Église, elle a des ressorts qu'on voit dans toutes les institutions traversées par des abus. Et malheureusement, toutes le sont. Depuis le sport, j'ai vu ça l'autre jour, je ne sais plus où, dans quel parti, le parti communiste, ou, enfin bon, partout. Mais il y a des particularités dans l'Église. À la fois, le silence, l'omerta s'est constitué de par l'organisation même de l'Église, de par le fait peut-être que cette Église est marquée par un caractère sacré qui renferme encore plus les victimes, alors que si quelque chose doit être sacré dans l'Église, ce sont les victimes. Et non pas la peur du scandale ou quelque chose de cet ordre-là. La façon dont on considère le prêtre, on voit bien que ça a été très partie prenante de nombre d'abus d'hier, peut-être d'aujourd'hui, mais en tout cas d'hier, c'est sûr. La place de Dieu, bien sûr, le fait que tant et tant d'abus sont commis chez les religieux comme chez des prêtres diocésains, au nom de Dieu. Donc là, il faut arriver à comprendre ce qui se passe là-dessous, parce que sinon, au-delà de la colère et au-delà de mesures de prévention impératives, on ne parviendra pas à modifier la structure de telle sorte qu'on puisse pour de vrai espérer que demain, ça ne puisse pas recommencer.
Alors, vous voyez-vous un chantier ? 12 points dans ce chantier, on ne va pas tous les énumérer. Je vais en citer quelques-uns. Mettre les victimes au centre, mais ça, je crois que l'Église a quand même maintenant commence à comprendre. Dans tous les cas, à Rome, en février, on l'a à peu près compris. Mmh. Déconstruire le système clérical, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, très clairement. Mmh. Hein, voilà. Promouvoir les femmes aussi.
Parce que toute institution et l'Église, comme les autres, peut-être plus que les autres, je ne sais pas, a besoin d'altérité. Et que toute une raison de ce drame, c'est l'entre-soi. Parce que dans l'entre-soi, on minimise, on est tellement habitué, on minimise. Alors que quand vous avez d'un seul coup un regard différent qui rentre là, lui, il sait vous dire, mais enfin, ça va pas chez vous. Donc, il faut modifier la place des femmes. Il faut que les femmes aient plus de responsabilités. Pas les femmes parce qu'elles seraient encore une fois meilleures que les hommes, mais parce qu'il faut des hommes et des femmes. De même qu'il faut des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs. Enfin, il faut une pluralité. De même qu'il faut des pluralités de sensibilités. Sinon, l'Église court toujours le danger, y compris parce que c'est justement marqué par une transcendance, de se transformer en secte dès qu'on est trop dans l'entre-soi. Donc, et tout cela verrouille la parole des victimes. Plus on est dans l'entre-soi, plus cette parole est verrouillée. Les victimes qui parlent, ou c'est grâce aux médias, qui est une fameuse effraction en général, les enquêtes des médias, ou alors c'est parce qu'il s'est passé un événement venant de l'extérieur, qui d'un seul coup a fait comme détonateur une maladie grave, un suicide dans la communauté, une sorte de ce qu'on appelle un commissaire dans le régime romain, c'est-à-dire une sorte d'inspecteur, si vous voulez, nommé par Rome, venant inspecter la communauté, c'est-à-dire quelque chose qui fait effraction et qui, dans le système d'emprise, d'un seul coup va permettre à la personne de se dire « mais ce qui m'arrive, ça n'est pas normal et ça n'est pas juste ». Donc je crois qu'en effet, tous ces chantiers-là, et qui sont des chantiers longs, hein, dont on sait bien qu'on ne va pas les accomplir en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, mais qu'il faut entamer de façon déterminée, avec des sortes de points d'étape pour vérifier où nous en sommes, avec en plus le fait qu'il faut les espérer pouvoir les mener dans l'Église universelle.
Oui, effectivement, c'est le défi qui a été lancé à Rome quand même, hein, lors de ces quatre journées de réflexion entre évêques, mais évêques du monde entier. On voit bien qu'il y a des différences quand même énormes, ne serait-ce qu'au niveau de la loi déjà.
Oui, et puis au niveau de l'appréciation, c'est-à-dire que nous avons la chance quand même en Europe d'avoir aujourd'hui, ce fut un long combat, mais une considération des femmes quand même dont j'ose penser que majoritairement on pense qu'elles sont d'égale dignité que les hommes et qu'il n'y a aucune raison qu'elles n'accèdent pas aux mêmes responsabilités, etc., etc., etc. Mais dans beaucoup de pays du monde, nous sommes encore à des années-lumière de cela. Et donc, si la femme n'est là que pour servir l'homme, a fortiori dans l'Église, où souvent la position des prêtres est en quelque sorte encore plus forte que la position de l'homme tout court. Donc, forcément, c'est titanesque. Mais titanesque ou pas, il faut commencer à escalader la montagne, quoi.
Le film de François Ozon, donc sur le père Prénat et sur la parole libérée, vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu, et à vrai dire, j'ai trouvé ce film d'une grande, grande justesse humaine. Il y a une grande profondeur au personnage, en particulier, évidemment, parce que c'est ça l'axe du film, au personnage des victimes, que les acteurs parviennent à traduire avec beaucoup, beaucoup d'humanité et toute la complexité d'une histoire emmêlé, quoi. Bon, alors, emmêlé par le mal, par le mal commis par Bernard Prénat, par le mal subi par ces hommes, mais aussi leur histoire avec leurs proches, leurs parents. Et ça, je trouve que c'est très important de dire cela, parce que ça montre quand même ce parcours de combattant incroyable que c'est que d'accéder à la parole pour des personnes victimes. Et donc, je trouve qu'aussi que montrer cette si grande fragilité et humanité de ces hommes, ça, c'est magnifique. Non, je trouve que c'est un très beau film.
Sœur Véronique Margron, qui publie chez Albin Michel Un moment de vérité.
Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a 1 mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant.
Il t'a vu ?
Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants ?
Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret.
Je suis horrifié par ce que vous me dites. Je porte plainte.
Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits.
Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire ? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
Toujours sur cette crise des abus sexuels et en résonance avec le film de François Ozon, Grâce à Dieu, consoler les catholiques. Le dernier livre d'Anne Soupa, publié chez Salvator. Anne Soupa, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes bibliste, essayiste, engagée depuis des années pour une vraie reconnaissance de la place des femmes dans l'Église avec le comité de la Jupe et la conférence des baptisés francophones que vous avez cofondée avec Christine Pedotti. Alors, on l'aura compris, consoler les catholiques, eh bien, c'est les consoler de la tempête que traverse l'Église, discréditée par ces cascades de révélations. Consoler, c'est un peu suranné, Anne Soupa.
Il a un petit côté vieillot et puis un petit côté enfantin aussi. On peut croire qu'on va se faire un câlin et puis que tout va s'arranger. En fait, c'est un mot très utilisé dans la Bible par les prophètes qui ont consolé leur peuple au moment le plus grave de son histoire, c'est-à-dire au moment où la ville de Jérusalem a été perdue et où ils sont partis en exil pour Babylone. Donc, la consolation que les prophètes ont proposée, c'est vraiment de se tourner vers le Seigneur parce que c'est lui qui console. Et il console en disant, il y a un avenir, regardez devant, tout n'est pas perdu, vous vivrez demain, mais prenez les moyens d'y arriver.
Dans le même temps, vous, en femme très, je dirais, très réaliste, hein, vous faites un constat, vous n'êtes pas dans le déni, vous parlez de faillite de l'institution et la foi même des catholiques est ébranlée.
Bien sûr, la foi est ébranlée. Et ça, c'est grave. C'est la confiance qui s'érode. Moi, pour moi, c'est ce que je vois de plus grave dans la crise actuelle. C'est que les gens, les fidèles vont se détourner, déçus, incapables de passer outre à ce problème de confiance. Et on les comprend. C'est tellement important, la confiance. C'était le plus beau au capital de l'Église. Tout le monde faisait confiance à un prêtre. C'était la personne à qui on pouvait tout dire, à qui on pouvait tout confier. Aujourd'hui, il y a une arrière-pensée. Et c'est très grave pour tous les prêtres, parce que beaucoup sont des victimes de cette situation actuelle. Et leur vie aujourd'hui est difficile. Certains se font insulter. Donc voilà, il y a une vraie souffrance.
Donc, on peut parler d'une crise religieuse sans précédent.
Ah, c'est une crise majeure. Il y en a eu au fil de l'histoire. Il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de dépravation, il y a eu des problèmes d'argent, des problèmes de confiance trahis. Il y a eu des crises. Mais la différence, c'est qu'on était en chrétienté. Et le monde était chrétien. Il n'y avait pas d'autres propositions religieuses. Aujourd'hui, on est dans un monde pluriel où il y a plusieurs propositions religieuses et le christianisme est loin d'être le seul. Donc aujourd'hui, il est en concurrence et il faut vraiment en tenir compte.
Parmi les constats que vous faites, Anne Soupa, il y a celui d'une église fatiguée, d'une église effectivement même en proie au désintérêt général, d'une église qui se trouve finalement seule, isolée.
Mais malheureusement, elle a contribué à cet isolement en n'étant pas assez à l'écoute du monde, à l'écoute de la modernité, en particulier pour les femmes. Elle a pris de front dans une attitude hostile l'émancipation des femmes par l'encyclique Humanae Vitae de 1968, qui lui a aliéné une bonne partie de l'opinion féminine. Donc ça, c'est un tournant qui a été grave dans le fait que l'Église s'est isolée d'elle-même. Elle n'a pas compris l'évolution du monde. Elle n'a pas compris qu'aujourd'hui, c'était la conscience personnelle de chacun qui était le maître mot. On n'obéit pas aveuglément à n'importe quoi. On exerce sa conscience. Et l'Église ne l'a pas assez reconnue. Et tout ça a contribué à l'isoler. Et puis, elle s'est focalisée sur des problèmes de société qui sont importants, je ne veux pas dire qu'ils ne le sont pas, mais ça n'est pas le cœur du message évangélique. Le cœur du message évangélique, c'est l'amour de l'autre, quoi, tout simplement, quoi, voilà. Et là, c'est dommage que son message central ne soit plus aussi facilement entendu à cause de l'isolement auquel elle a contribué elle-même.
Alors, est-ce que vous estimez que d'une certaine façon, ce travail de purification, ce qui commence à se passer actuellement, on le voit effectivement avec des évêques, l'archevêque de Lyon qui a été condamné à 6 mois avec sursis pour ne pas avoir dénoncé à la justice civile des faits qu'il connaissait. Est-ce que vous estimez que ce travail auquel elle va être finalement confrontée, auquel elle est confrontée, va aboutir à une Église plus, assainie en quelque sorte?
Alors, en ce qui concerne la France, il y a effectivement une commission de Jean-Marc Sauvé qui a été nommée il y a 2 mois à peu près, à la demande des évêques de France. Donc cette commission va faire son travail. Il y a toutes les chances pour qu'elle soit d'une honnêteté sans faille et qu'elle collationne les abus et qu'elle prenne des dispositions pour demander à l'Église que ça ne recommence plus.
Oui, donc, cette commission, il faut le préciser pour nos éditeurs, on en a déjà parlé, mais bon, c'est recensé sur les 60-70 dernières années,
tous les cas d'abus sur mineurs et sur majeurs. Donc, vous voyez, c'est quand même un éventail assez large. Bon, il est probable qu'elle va travailler pendant 18 mois, 2 ans, et qu'après, elle rendra ses conclusions. Donc, pour la purification dont vous parliez, il y a effectivement un travail qui va se faire. Mais moi, j'insiste sur le travail d'écoute aussi. Il faut que l'Église écoute le monde, écoute ses fidèles, écoute ses prêtres, et ait cette attitude qui est la première attitude demandée dans la Bible. Enfin, c'est la prière de chaque jour du juif, de la personne juive. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Donc, notre Église a besoin de se mettre à écouter.
Et elle n'a pas écouté assez les victimes, effectivement.
Non, elle n'a pas écouté les victimes, elle n'a pas écouté les professionnels de la santé qui disent que les abus qu'autrefois on négligeait peut-être, que ces abus sont des vrais traumatismes et qu'ils marquent pour toute une vie. Et là, elle a failli.
Parmi les causes que vous énoncez, il y a celle de la radicalité évangélique mal comprise et notamment d'une ascèse. Alors là, évidemment, vous évoquez la question de la chasteté, la question du célibat. Alors, la réponse souvent dans l'Église, je le rappelais il y a quelques instants à Mgr Ravel, la réponse qui est souvent faite dans l'Église, c'est de dire, la plupart des abus sexuels se déroulent dans la famille. Bon, ce qui est exact, effectivement, la question de l'inceste. Il n'empêche, est-ce que vous n'estimez pas quand même que la possibilité pour les prêtres d'avoir une vie conjugale pourrait, malgré tout, diminuer, si je puis dire, les cas d'abus sexuels ?
Alors, ça le pourrait d'une manière latérale. C'est-à-dire que le problème majeur qui favorise les abus sexuels, c'est l'entre-soi, c'est l'existence d'un monde clos, où on se soutient mutuellement et où les crimes les plus horribles ont été couverts. Bon, si les prêtres étaient mariés et s'il y avait des femmes dans ce monde, pas seulement les épouses de prêtres, mais bien entendu des femmes ordonnées aussi, eh bien le monde ne serait pas un monde de l'entre-soi, ce serait un monde ouvert. Et il y aurait peut-être encore des cas d'abus, mais peut-être dans des proportions semblables à ce qu'il y a dans d'autres institutions comme l'armée ou l'éducation nationale ou le monde du sport où il y a aussi des abus. Donc on reviendrait à des taux comparables à ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça l'objectif. Le monde complètement purifié n'existe pas, mais il y a des conditions qui favorisent des excès et il faut travailler à l'éradication de ces conditions.
Vous estimez qu'effectivement que l'ascèse, là je reprends vos termes, cache des points aveugles en chacun. Alors effectivement, il y a les personnes qui peuvent, par exemple, choisir une pauvreté extrême, mais finalement c'est une sorte de dépassement de soi-même, mais où il y a beaucoup d'orgueil. On peut aussi rester célibataire par peur de se lancer dans la vie.
Alors là, vous faites effectivement appel à l'ascèse qui peut séduire un jeune homme décidant d'entrer dans la prêtrise. L'ascèse du célibat, donc. Hein. Mais oui. Derrière ce désir de rester célibataire, vous soulignez, en me citant, que effectivement il y a plusieurs manières qui sont finalement des fuites devant ses responsabilités d'être sexué, appelé à vivre sa vie aussi dans le respect de la sexualité qu'il anime. Donc il y a des fausses ascèses. Et pour revenir à la question que vous souleviez sur la radicalité évangélique, je crois que la radicalité évangélique, c'est-à-dire le fait de tout donner pour le Seigneur, ça n'est pas forcément le célibat. Et ça, c'est une idée un petit peu neuve. On a beaucoup cru que le célibat était le nec plus ultra de l'offrande. Bon, moi, je pense que c'est la fraternité, le souci de l'autre qui traduit le mieux la radicalité évangélique pour notre temps.
Plutôt que le côté sacrificiel.
Exactement. Alors que le souci de l'autre, eh bien, c'est la main tendue aux frères et à la sœur. C'est le fait de se dire, comme l'a dit si fortement Michel de Certeau, là, ce grand écrivain jésuite, « pas sans toi ». C'est-à-dire que nous ne pouvons concevoir nos vies sans l'autre. C'est l'autre qui dicte d'une certaine manière notre éthique, notre comportement moral.
On parle effectivement, on demande de... Aujourd'hui, aimez vos prêtres. Et vous estimez finalement que ça n'est pas forcément la phrase qu'il faudrait. C'est d'abord demander à l'institution qu'elle ne les broie pas. C'est votre expression, moi, je la reprends telle quelle.
Vous avez raison de souligner ça. Je pense que l'institution ne se rend pas compte de ce qu'elle demande à ses prêtres parce qu'elle est conçue sous cette forme du célibat. Mais ce sont les prêtres qui tiennent le choc ou qui ne le tiennent pas du respect de ce célibat. Et je trouve que l'institution est trop dure avec ses prêtres. Elle est trop dure dans la mesure où elle les écoute assez peu et où effectivement elle leur impose un célibat qui les oblige à vivre dans une vie affective difficile. Peut-être pas pour tous, il ne faut pas faire de règle générale, mais difficile pour beaucoup. Si on écoute les bruits, on se rend compte qu'un nombre important de prêtres ont des liaisons conjugales, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, et qu'on en déduit que ces prêtres sont malheureux parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle une double injonction. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose que leur Église réprouve et qu'ils sont obligés en public de réprouver. Donc ils sont dans la division permanente d'eux-mêmes. Et c'est cette souffrance que je voudrais mettre en lumière et qui est, je trouve, injuste.
Et là, effectivement, indirectement, vous faites référence au livre de Frédéric Martel, Sodoma, qui parle de ces évêques qui sont très homophobes dans leur discours parce qu'en fait, ils sont homosexuels, pratiquants ou non, mais ils sont homosexuels.
Alors, il faut effectivement, on peut faire ce lien, mais il ne faut pas le faire de manière absolue parce que on n'en sortirait pas. Mais je voulais simplement souligner que il faut faire attention à ne pas demander à quelqu'un d'être dans une double injonction qui est clivante, qui est mortelle pour lui. Parce que c'est injuste.
Et ça vous conduit à une sorte de schizophrénie, en fait.
Bien sûr, à la division de soi-même, oui. Alors, bon, le livre de Frédéric Martel souligne encore autre chose. Il souligne tous les réseaux de pouvoir que la question de la sexualité génère. Parce qu'à partir d'une liaison homosexuelle, se constituent des réseaux, des lobbies, des copinages, si on peut dire, et des exclusions. Donc, ce sont des systèmes de pouvoir occultes qui échappent, évidemment, à la transparence normale. Et c'est extrêmement difficile pour l'Église de vivre sainement, évangéliquement, avec de tels systèmes de pouvoir.
Toujours sur cette question de la morale sexuelle, je reprends un passage de votre livre. Anne Soupa, disons sans détour à nos prêtres que leur état de vie ne nous intéresse pas. Qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, continents ou non, nous importe peu, à condition bien sûr que la relation soit entre adultes consentants et que nous préférons des serviteurs heureux que malheureux, que nous ne les aimons pas pour leur sacrifice.
Oui, effectivement. Le fait de montrer aux fidèles qu'on est un prêtre qui fait un gros sacrifice, je pense que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons plutôt besoin de la capacité de nos prêtres à nous dynamiser, à nous entraîner vers la parole de l'Évangile et à nous montrer leur compassion quand nous souffrons. Voilà, c'est ça que nous attendons de nos prêtres. Nous attendons pas qu'ils nous disent avec une étiquette sur la poitrine, je me sacrifie pour vous, parce que ça c'est une sorte de culpabilisation dont nous ne voulons pas.
Et c'était aussi une vision de l'Église quand même.
Ah ben bien sûr,
ce dolorisme.
De ce dolorisme et puis cette manière de culpabiliser l'autre parce qu'on a fait beaucoup de sacrifices, mais on ne leur demande pas ça.
Alors vous demandez également à l'Église, Anne Soupa, de supprimer l'article 2357 du catéchisme de l'Église catholique.
Ah, c'est vrai que cet article me chiffonne.
L'homosexualité.
Beaucoup. Effectivement, il dit que les conduites homosexuelles sont des conduites désordonnées.
Intrinsèquement désordonnées.
Alors, le mot est équivoque. Ça veut simplement dire que ça ne conduit pas à la procréation. Voilà, il faut pas donner un sens qui n'a pas ce verset, ce oui. Paragraphe. Bon, mais il n'empêche que il est la marque d'une suspicion qui est portée sur les personnes homosexuelles. Et je pense que c'est une source de malheur. Nous devrions, dans notre Église, admettre les gens tels qu'ils sont et ne pas leur demander des choses impossibles. Nous connaissons peu l'homosexualité. Il faut laisser les professionnels travailler et les personnes homosexuelles s'exprimer pour que nous comprenions les uns et les autres qu'est-ce que c'est vraiment que l'homosexualité. Bon, et l'Église n'a pas fait ce travail. Et si elle abrogeait cet article, si elle avait une capacité d'écoute des personnes homosexuelles, sans l'idée arrêtée de les faire changer de comportement, eh bien, elle gagnerait beaucoup en humanité et en proximité évangélique.
En conclusion, Anne Soupa, moi, ce que j'ai compris de votre livre « Consoler les catholiques » aux éditions Salvator, c'est de dire, voilà, il vous reste, dans cette période tourmentée, aux catholiques, vous leur dites, il vous reste l'Évangile.
Non seulement il vous reste, mais vous avez l'essentiel. Vous avez l'essentiel qui est votre foi et la fréquentation de l'Évangile. Parce que l'Évangile nous apporte tous les jours la force qui est nécessaire pour vivre. Bon, nous avons des trésors et vraiment, je pense que c'est en revenant à ces trésors que d'abord nous traverserons la crise et puis nous redécouvrirons que l'Évangile nous apporte une vie éternelle qui commence aujourd'hui, enfin qui est déjà de notre temps. Bon. Donc regardons, c'est vraiment le plus important. Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes dans l'épreuve. L'Église traverse une crise très difficile. Elle ne pourra pas la traverser sans renoncer à une bonne part de son passé. Mais le renoncement au passé n'est pas un échec, c'est simplement le signe qu'on se laisse accompagner dans le présent par le Seigneur qui est là, parce que l'aujourd'hui est un aujourd'hui de Dieu, donc nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Nous devons le regarder avec confiance et avec l'Évangile au cœur.
Je vous remercie Anne Soupa, je rappelle donc le titre de votre livre « Consoler les catholiques » et c'est aux éditions Salvator. Merci.
Merci.
c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Olivier Raoul vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.